Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Les débats avec vous sur Sud Radio, avec Jacques Myard, maire LR de Maison Lafitte. Comment ça va?
Salut.
Jacques Myard? Salut et fraternité.
Honneur et patrie.
Honneur et patrie, voilà. Éric Tegner, journaliste, directeur de la rédaction du nouveau média en ligne Livre Noir.
Bonjour,
bonjour. Christian de Villeneuve, journaliste politique, et Régis de Castelnau,
bonjour.
Avocat. Votre livre, une justice politique, est paru aux éditions L'Artilleur. Et vous êtes membre de la rédaction de Front Populaire. Ça va bien à La Réunion?
Eh ben, écoutez, on a eu un deuxième cyclone.
Ouais, j'ai vu ça,
qui s'appelait Ennati. Alors, c'est à 15 jours d'intervalle. Nous, ça s'est bien passé. Le deuxième était un peu plus loin. Les malheureux sont comme d'habitude les malgaches qui, au même endroit, ont repris à 15 jours d'intervalle un cyclone intense avec les dégâts habituels, avec les disparus, etc. C'est véritablement une malédiction, ce pays. C'est comme Haïti. La seule différence avec Haïti, ils ont la misère, ils ont les cyclones, mais à Madagascar, ils n'ont pas les tremblements de terre. Non, mais c'est épouvantable. Enfin, là, aujourd'hui, l'île est un peu mobilisée parce que c'est tout près. Donc, voilà, il y a une solidarité avec Madagascar, mais c'est quand même assez terrible.
Assez terrible. Voilà. Gilles Gansman est resté avec nous pour le zapping de la présidence.
Sud Radio, le zapping de la présidentielle.
Et à l'instar de Sandrine Rousseau, c'est au tour d'Anne Hidalgo de demander au maire de ne pas parrainer Éric Zemmour. C'était chez nos amis de France Inter, bien sûr, what else?
Si on n'est pas capable de convaincre 500 maires sur 42 000 élus qui peuvent parrainer, alors il y a un petit problème. Qu'on ne nous prenne pas pour les idiots du village, quand même. Zemmour qui tient des propos, qui sont des propos mais antidémocratiques, des propos négationnistes, des propos qui sont extrêmement dangereux pour l'équilibre de notre pays et que, au nom de la démocratie, alors que il tient des propos qui sont totalement contraires à la démocratie, on vienne chercher des formules pour lui donner des parrainages. Mais de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on?
Voilà, ouais. Et Sandrine Rousseau a aussi, à peu près la même chose en disant...
Fabien Roussel aussi, hein, c'est pas une réaction sur... on a beaucoup parlé de ces histoires de parrainage, mais... Allez-y, Régis, vous avez pris la parole.
Je voudrais faire un petit peu de droit. Je voterai, je vais faire du chagrin à Éric Tegner, mais je ne voterai sûrement pas Éric Zemmour. Non, mais j'anticipe. Non, ce que je voudrais dire, c'est que il y a un vrai problème, là, avec ces anathèmes lancés par Madame 2%, hein, qui décide, donc, il n'est pas interdit, il n'est pas en prison, hein, il est tout à fait éligible au sens juridique du terme. Non, ce que je voudrais dire, c'est que, cette présentation, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec la connivence politique, avec le soutien de ses positions. C'est de dire, il est légitime pour se présenter. Et toutes ces manœuvres, y compris Geoffroy Didier qui dit on exclura, etc. Ce sont des manœuvres dolosives. C'est de la fraude électorale, tout simplement. Il y a des, enfin ça, c'est le code électoral que personne ne connaît vraiment, hein, qui le dit. Il y a effectivement des articles qui stigmatisent ce genre de pression. Il y a eu la lettre du sénateur Grand. Il y a la déclaration de Geoffroy Didier. Il y a les anathèmes lancés par Anne Hidalgo en direction des maires socialistes. Je trouve que après, on se bat pendant la campagne. Et moi, je me battrai contre Éric Zemmour, hein, mais je suis désolé, il est légitime juridiquement, il est légitime politiquement à se présenter, donc on doit pouvoir le parrainer sans subir les foudres.
Oui, mais enfin,
Christian Villeneuve.
Un candidat qui met en cause les fondements de la République, est-il légitime?
Vous parlez d'Éric Zemmour.
À ce moment-là, il faut interdire son parti et le poursuivre en justice. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? traiter tout le monde d'extrémiste comme aujourd'hui on l'entend, c'est proprement, je dirais, idiot. Parce que de deux choses l'une, où ces gens-là, effectivement, à un moment, un parti est contraire aux lois de la République, eh ben, on l'interdit, on va jusqu'au bout, mais qu'on cesse ce genre d'amalgame et ces espèces de morale à la petite semaine de comptoir.
Plus, il faut arrêter la surenchère. Hein, quand on voit qu'Anne Hidalgo, pour elle, limite Emmanuel Macron est d'extrême droite, on voit qu'en fait, si on n'est pas d'accord avec elle ou qu'on est un peu plus à droite, de toute façon, on est dans le camp de l'antidémocratie. J'ajoute juste deux éléments. Il faut, si on regarde aux mêmes dates, en 2017, et qu'on calcule, je ne me rappelle plus du nombre exact, il y a moins de maires qui parrainent aujourd'hui qu'en 2017. Quand elle parle de 42 000 élus, etc., c'est faux, en fait. Le gâteau, il est extrêmement réduit de base, et il est encore plus réduit depuis 2017. tête. Et ensuite, le deuxième élément, c'est que ceux qui nous écoutent peuvent se dire, est-ce que c'est vrai en fait? Est-ce que Marine Le Pen et Éric Zemmour ne sont pas en train de faire de la comédie?
On a eu le débat hier.
Moi, je peux vous le dire, du côté de Marine Le Pen comme d'Éric Zemmour, quand on leur parle, ils sont vraiment inquiets. Moi, hier, je suis passé en voir certains qui me disaient, ben voilà, dans 15 jours, pour moi, c'est fini en fait.
Ils vont retourner au chômage.
Ils pensent vraiment que c'est très compliqué. Et la vérité, c'est que quand je vois Éric Zemmour, il a 350 parrainages. Il en reste 150 du coup à avoir. Ouais. Ils n'ont aucune certitude. Et contrairement à 2017, en 2017, ils pouvaient aller récupérer eux-mêmes le parrainage et le donner au conseil constitutionnel. Là, ils doivent attendre que le maire le fasse lui-même.
C'est ça, alors qu'il y a de la déperdition forcément dans les promesses.
Donc ils craignent qu'il y ait une non-qualification, même à 10 parrainages près.
Ouais. Alors un auditeur nous vous demande en quoi est-ce qu'il met en danger les institutions républicaines, Éric Zemmour ?
Par des propos, quand il réhabilite Pétain, par exemple.
Il réhabilite pas Pétain.
Si, il l'a fait.
Mais qu'est-ce que c'est réhabiliter Pétain ?
Faut lire.
Quand vous dites réhabiliter Pétain, ceux qui nous entendent, ils entendent quoi ? Ils entendent Éric Zemmour dit que Pétain est génial. Absolument pas.
Non, mais il a expliqué qu'il a sauvé des Juifs.
Éric Zemmour,
c'est suffisant.
Moi, je voudrais poser une question à Jacques Myard. Est-ce que Jacques Myard est prêt ? Il est éligible, voyons.
Jacques Myard, alors, Christian Villeneuve a une question à vous poser.
Est-ce que
vous seriez prêt à parrainer Éric Zemmour ?
Exactement.
C'est ça la question.
Non, premièrement, j'ai déjà parrainé ma candidate.
Oui, ça, je savais que tu allais répondre ça.
Bon, ça, c'est aussi simple que cela. Mais il est clair que s'il n'a pas ses parrainages, ça va poser un sacré problème de défiance envers le système politique. Et ça va être, ça va lui donner une aura de victime du système, ce serait catastrophique.
Ça peut être très dangereux. Encore une fois, il n'y a pas que lui, il y a Marine Le Pen. Marine Le Pen, c'est pas parce qu'il lui en manque que 50 que
Jean-Luc Mélenchon aussi.
La différence, c'est qu'il y a des gens comme Fabien Roussel qui ont quand même beaucoup d'élus qui disent je ferai tout en sorte que l'extrême droite n'ait aucune voix. Il y a une mobilisation. Quand je vois Jean-Pierre Raffarin et Dominique Bussereau, c'est quand même des gens très influents auprès des élus locaux qui commencent déjà à expliquer justement que dans le fond, s'ils n'ont pas 500 parrainages, ça veut dire qu'ils n'ont pas de raison d'être candidats à la présidentielle. Ça montre qu'il y a une entreprise qui est en train de se mobiliser. Et c'est les amis de Jacques Myard. Pardonnez-moi, moi aussi je peux envoyer des scuds.
C'est ce qu'a dit aussi Olivier Véran.
Éric, moi je ne suis pas cloné. Hein. Mettez-vous ça dans la tête.
Oui, je sais.
Donc,
vous êtes libre.
Chaque fois que je prends des positions, je les prends conformément à mes convictions et j'en ai rien à foutre de ce que peut dire,
y compris les amis. C'est LR aujourd'hui qui se. C'est intéressant, il y a eu un jeu où LR a essayé de d'aider à ce qu'Éric Zemmour soit candidat pour se qualifier au second tour. Maintenant qu'il voit que Pécresse s'écroule, LR se mobilise. Il y a des pressions qui sont réelles sur les maires aujourd'hui par LR pour qu'ils ne donnent pas de
nom. On n'entend pas.
Éric, Gérard Larcher a clairement dit que parrainer, ce n'est pas soutenir.
C'était il y a un mois et demi. C'était il y a un mois et demi avant que Pécresse s'écroule.
Arrêtez de jouer les victimes, cher ami. Hein.
Je ne joue pas les victimes, moi j'explique juste. Mais je ne défends personne.
Hein.
Je pense que Marine Le Pen, c'est le même problème.
Il est président de l'AMF, de l'association où il y a tous les maires de France qui sont membres. Il dit, c'est pas un soutien. Moi, je parraine Mélenchon. Je suis d'accord, moi. Je considère que Éric Zemmour, d'une certaine façon, réhabilite Pétain. Pour autant, il est éligible. Il y a le suffrage universel. Oui. Pour être éligible, il faut être électeur. On a mis en place un système de filtre pour éviter les candidatures fantaisistes, comme Marcel Barbu la première fois. Sauf que François Hollande a mis un verrou pour empêcher l'expression d'une partie de l'opinion publique française. Cette élection, elle va être délégitimée au plan juridique. Le Conseil constitutionnel ne pourra constater que les manœuvres, les pressions, etc., et l'altération de la sincérité du scrutin. Mmh. Ah, c'est intéressant, ça. C'est intelligent.
Quand vous voyez qu'il y a des candidats quand même d'extrême gauche, trotskistes, qui font même pas 1%. Je sais même plus comment elle s'appelle. C'est Nathalie Arthaud.
Nathalie Arthaud,
qui a déjà fait le plein. Ouais. À un moment donné, est-ce qu'ils sont plus républicains?
Non, mais c'est ce qu'on a.
Parce que d'être communiste, c'est plus républicain.
On a évoqué ce sujet hier et les pressions que subissent aussi les maires, les élus qui soutiennent des candidats qui ne sont pas forcément dans la doxa du conseil régional ou départemental et du coup qui ont des pressions. Et ça, c'est une réalité. On le répète tous les jours. Bon, bravo Gilles pour votre son parce que du coup, il y a plus de zapping. On continue. Juste après le journal, à tout de suite.
Sud Radio 10h midi, débat.
Les débats avec vous sur Sud Radio, avec aujourd'hui Régis de Castelnau, avocat. Votre blog s'intitule Vue du droit. Vous avez publié Une justice politique aux éditions L'Artilleur et vous êtes membre de la rédaction de Front Populaire. Jacques Miard, maire LR de Maison Lafitte, Éric Tegner, journaliste, directeur de la rédaction du nouveau média en ligne Livre Noir, et Christian de Villeneuve, journaliste politique. Gilles, le zapping peu de la présidentielle, on continue.
Mais je suis désolé.
Les parrainages, c'est un sujet.
Ah bah là aussi, le sujet. Voilà. Alors, vous venez de l'entendre dans le journal, Emmanuel Macron va faire un meeting le 5 mars, mais bien avant, parce qu'évidemment j'ai pris des sons hier soir, la porte-parole d'En Marche, Prisca Thévenot, a été sur CNews et a ironisé sur ceux qui attendent la candidature d'Emmanuel Macron pour partir en campagne. Oui, du bateau, il devait être candidat.
Encore une fois, nous sommes en campagne, et quand je dis nous, ce sont les élus, les militants. Nous étions hier soir encore en bureau exécutif, réunis en majorité présidentielle, pour travailler l'ensemble des sujets qui nous permettent d'être en campagne et de tout préparer pour que le moment venu, il se déclare et que tout soit prêt. Donc j'ai envie de dire, la campagne a commencé et j'ai du mal à comprendre ce principe qui quand même en marotte depuis un moment, c'est la campagne ne commencera pas tant que le président ne sera pas là. Ben, si, elle a commencé et c'est un peu dommage de devoir dire que certains candidats ont besoin que le président se déclare pour se sentir pleinement engagé dans une campagne.
Voilà. Oui, on va en reparler
Emmanuel Macron, toujours lui, a-t-il été humilié par Vladimir Poutine? Poutine l'a-t-il roulé dans la chichmechen mouki? c'est la farine en russe. Raphaël Glusman sur LCI a dit que faut pas se tromper de coupable.
Moi, je pense qu'Emmanuel Macron a fait une erreur au début de son mandat en pensant qu'il pouvait imposer une valse, un tango avec Vladimir Poutine en le recevant à Brégançon, en allant au musée de l'Ermitage, en le recevant à Versailles. Et il a fait l'erreur qu'ont fait tous les présidents français, qui était de se dire à chaque fois, avec moi, on va installer une relation de confiance. Mais Vladimir Poutine n'en veut pas de cette relation de confiance. Parce que, en réalité, Emmanuel Macron n'est pas coupable de ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui. Et quand on entend les critiques qui lui sont portées de la part, notamment de l'extrême droite, eh bien, on a l'impression que tous ces patriotes de pacotille se réjouissent du fait qu'un tyran étranger humilie le président de la France. Ces gens-là sont des traîtres.
Ah, il n'a pas fait semblant. Hein.
Non, il n'a pas fait semblant.
Et pour mais quel imbécile.
Qu'est-ce qu'il dit? Quel imbécile.
Oh là 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 là. Glucksmann, le fils de son père. Son père, au moins, avait une certaine compétence philosophique, mais alors lui, au secours. Bon.
Ouais, allez, on a pris du retard pour vos débatteurs et pour vous, j'ai un petit cadeau. Je crois que, vous savez, il y avait eu le phénomène manger des pommes, des guignols. Oui, oui. Je crois que Valérie Pécresse et son debout va devenir aussi à la mode. Je vais vous montrer un petit montage qu'a fait un internaute sur la chanson Il jouait du piano debout. Ah. Écoutez.
Il jouait du piano debout. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là.
Voilà.
C'est pas mal. Hein.
C'est pas mal, debout. Et absolument. Merci, merci Gilles. On va passer.
Vaut être debout que couché. Hein.
Ah, évidemment.
Ah non, évidemment. C'est drôle, c'est amusant.
Coup de gueule, coup de cœur pour parler un petit peu d'autre chose que des parrainages.
Oui, encore.
Et de l'Ukraine, parce que c'est intéressant de voir ce qui a retenu aussi votre attention aux uns et aux autres. Éric Tegner, c'est un coup de gueule sur le film de Mediapart. On avait reçu les deux journalistes.
Complètement.
Ici.
Un film qui s'appelle Media Crash, donc qui est en salle depuis la semaine dernière, qui est produit par Mediapart et la société de production Première Ligne. Ils expliquent que le but, c'est de condamner le fait que 9 milliardaires aujourd'hui possèdent 90% des médias. Donc quand on va regarder ce film, on se dit bah, finalement, c'est une façon de lutter, un peu de tirer sur tout le monde. Et en fait, on réalise que 40% du documentaire est consacré évidemment à Vincent Bolloré et à CNews.
Hein,
c'est en fait 50%, c'est un film anti-Bolloré. Mmh. Et ce qui est surprenant, c'est que pour le coup, Patrick Drahi, propriétaire de BFM TV, n'est pas du tout cité. Il n'y a pas une seule mention. La seule fois où on parle de BFM TV sans parler de Patrick Drahi, c'est pour exonérer BFM TV sur l'histoire des financements libyens en disant que finalement ils se sont laissés avoir. Ils étaient obligés d'en parler, mais ils les dédouanent. Parce qu'en fait, leur seul objectif, c'est comme toujours la même chose, c'est que Mediapart, sous couvert de lutter pour la liberté de la presse, etc., souhaite d'abord discréditer une certaine presse. C'est-à-dire qu'ils ne souhaitent pas le rééquilibrage qui est fait par Vincent Bolloré et par CNews, tout comme ils vont expliquer que dès qu'il y a...
Rééquilibrage, c'est quoi?
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, BFM TV est la première chaîne d'info de France devant CNews. Donc, à un moment donné, s'ils avaient voulu être honnêtes, eh bien, ils auraient d'abord parlé de BFM TV, qui joue un rôle aujourd'hui prépondérant, qui est quand même aussi proche d'Emmanuel Macron, ou au moins, ils auraient eu un jugement équilibré. Parce que CNews, si CNews était première chaîne d'info, avec une ligne idéologique assumée, etc., on pourrait comprendre. Là, c'est surprenant. Moi, je trouve qu'ils avançaient. D'ailleurs, ils ont eu des soi-disant.
Oui, mais il a raison, Eric Tegner. Il y a très peu, on ne parle pas de la concentration, très peu de la concentration médias d'Eric, de Patrick Drahi.
Exactement. Et ils ont eu des soi-disant experts, mais qui, en fait, étaient tous politiquement engagés. C'est toujours cette même méthode. Et en fait, une sorte de microcosme où on voit ce sont les mêmes médias de gauche qui parlent entre eux. Donc, il y a Blast, il y a différents petits médias indépendants, il y a Mediapart. Et ils fonctionnent en écho entre eux. Moi, ça m'a pas étonné.
Vous pensez pas que Bolloré roule pour Zemmour ?
Non, je pense que Bolloré, il est sur un créneau aujourd'hui qui est porteur parce qu'il est délaissé par beaucoup de médias depuis de nombreuses années, qui est tout simplement les gens ne se reconnaissaient pas dans des grands médias comme BFM TV. Mais si ça fait des audiences à un moment donné, c'est que ça rencontre un public. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a des médias de gauche, il y a une presse de gauche qui est aussi subventionnée, qui ne retrouve pas de public parce qu'ils sont sur des idées complètement dépassées. À un moment donné, aujourd'hui, CNews, et il l'expliquait, lorsqu'il était auditionné par le sénateur David Assouline il y a 3 semaines, il leur expliquait. Les médias aujourd'hui, ça rapporte beaucoup d'argent. Il a d'ailleurs cité l'exemple avec Fox News, le propriétaire de Fox News, où en fait Fox News, c'est ceux qui rapportent le plus de profit, le plus de marge, parce qu'encore une fois, il y a une audience. Il est jugé par le fait qu'il y a des audiences. Alors aujourd'hui, Éric Zemmour, le problème, c'est que dès qu'un média va parler d'Éric Zemmour, parce qu'à un moment donné, Éric Zemmour fait de l'audience, je suis désolé, quand Éric Zemmour va débattre avec Jean-Luc Mélenchon sur TPMP, au début, il y avait 10 minutes de prévu, finalement, Hanouna voit que ça marchait, donc il a laissé une heure. Et quand Zemmour est parti, les audiences ont été divisé par deux, sans passer de 2 millions à 1 million.
L'audience n'est pas liée
donc,
à la qualité.
Lorsque les médias se disent on va parler de Zemmour parce que fait de l'audience, on va dire les médias du coup sont pro-Zemmour. C'est exactement ce qui nous arrive nous avec le Gros Noir. C'est de l'hypocrisie. La gauche parle tout le temps de Zemmour. Pour le condamner, etc.
Eric,
mais il parle tout le temps de Zemmour aussi.
Alors, vous devriez postuler au barreau, là, parce que je viens d'entendre une très belle plaidoirie en faveur de Bolloré. Prétendre que CNews ne soutient pas Zemmour, ça n'est pas très sérieux.
Dans ce cas, qu'est-ce que vous dites de votre support Front Populaire qui a reçu Eric Zemmour devant 4500 personnes au Palais des Congrès avec Michel Onfray? Est-ce que ça veut dire que vous êtes pro-Zemmour?
Autre observation. Non, ça n'a rien à voir.
Oui, soyez
sérieux.
C'est quand même 4500 personnes. Vous n'avez pas rempli 4500 personnes.
Autre observation, ma deuxième, s'il vous plaît. Là, faut pas être véhément comme ça, parce que je veux dire, c'est autre observation, surtout que je suis bien capable de l'être aussi. Autre observation, vous avez dit, Plenel n'est pas, enfin, Mediapart n'est pas honnête. Plenel honnête, oxymore. Hein, faut être sérieux. Hein. Parce que je vous signale que effectivement, il part en guerre contre Bolloré. Bolloré, il a l'air insolite. Bolloré, c'est un empire. Hein. En revanche, il est parti sur Fabien Roussel. Il dit je vais soutenir Mélenchon. Et le lendemain, hop, hein, on a une affaire. On sort, pas fictif, etc. Sur un dossier absolument vide. Hein, je défends pas Roussel. Je voterai pas pour lui. Je suis clair.
Petite parenthèse sur la célérité du PNF qui s'est rapidement saisi du dossier Fillon à l'époque. Et là, visiblement, ça les intéresse pas.
Mais c'est du petit gibier quand même. Petit gibier.
Mais j'ai retrouvé le temps de parole des candidats. Oui. Éric Zemmour, 2054 heures du 1er janvier au 14 février. Marine Le Pen, 1473. Jean-Luc Mélenchon, 1423. Valérie Pécresse, 1336. Yannick Jadot, 1089. Fabien Roussel, 914. Bref, ça descend. Mais 2054 heures d'antenne.
En fait, ça marche.
Soutien non comptabilisé.
Il va falloir compenser.
Alors déjà, il faut savoir que Marine Le Pen a fait exprès de ne pas trop être dans les médias. Elle rentre dans une séquence médiatique de 15 jours à 3 semaines qui vient. Donc c'est une stratégie. De l'autre côté, moi, je ne vois pas à quel moment on peut en vouloir aux médias de se dire je réinvite quelqu'un ou je parle d'un sujet où à chaque fois ça fait de l'audience. L'audience, c'est pas quelque chose de faux, l'audience c'est des gens.
On sort de notre sujet Mediapart et du film Mediacrash où effectivement il y a 70% qui est consacré à Bolloré, je suis d'accord avec vous.
Il faut quand même regarder la réalité en face, et je dirais que la présence, la prégnance des grands groupes capitalistiques, et je suis un homme de droite, dans les médias, pose un problème d'équilibre, qu'on le veuille ou non.
Mais ça a toujours été. Hein.
Oui, mais attends.
Alors, je ne suis pas d'accord sur le problème, c'est le manque de. Le
mais
problème, c'est...
Sur ce point précis, il faudrait un peu plus d'équilibre. Parce qu'aller chercher le fait qu'il y ait des audiences sans Antonio, comme disait mon prof de français, il avait aussi de l'audience. Maintenant, est-ce que c'était de la littérature au sens propre? J'en doute.
Aujourd'hui,
qu'on le veuille ou non, il va falloir mettre des règles pour qu'il y ait plus de diversité dans la possession des médias. Parce que sinon, ça va être la Pravda. Hein.
Non, mais ce que dénonce le film, c'est 9 milliardaires qui possèdent 90% des médias. Sauf qu'effectivement, encore une fois, vous avez raison, c'est Bolloré.
Là, il y a une interrogation.
Oui, mais je vous dirais...
Christian Villeneuve, qui connaît bien, vous avez dirigé de nombreux journaux.
La concentration des médias par des industriels milliardaires, entre autres, n'est pas nouvelle, ça a toujours été. Et finalement, on était très souvent bien contents de les trouver, parce que la presse est complètement déficitaire.
Voilà, c'est pour te payer.
Je peux juste ajouter un élément, c'est que ce qui pose problème, c'est pas qu'il y ait des milliardaires qui possèdent des médias, c'est effectivement le manque de diversité. Je suis désolé, par exemple, la Commission européenne, elle avait bloqué à l'époque ce grand projet d'un Netflix européen, justement porté Bolloré avec Mediaset. Ça a été bloqué. On a besoin de grands groupes puissants. Pourquoi aussi? Parce que le service public fait pas son boulot. À un moment donné, je suis désolé, oui, Bolloré, etc.
Parce qu'on a dit à David Assouline, il y a aussi une concentration dans le service public, d'une certaine manière. Régis de Castelnau, coup de gueule.
Ah oui, alors moi, je me suis battu les flancs pour essayer de pas avoir un coup de gueule ou un coup de cœur, d'ailleurs, relatif à la présidentielle ou relatif à l'Ukraine, et j'ai eu du mal à trouver. Mais j'ai finalement trouvé, c'est ce qui s'est passé la semaine dernière aux États-Unis, où vous avez un homme qui a décidé un beau matin qu'il était une femme, un transgenre, et il a participé aux compétitions de natation, et il a écrabouillé toutes les autres concurrentes, il a pulvérisé tous les records. Et ce qui est extraordinaire, et qu'en dit long sur le notre civilisation, où est-ce que nous, occidentaux, on en est, c'est que les adversaires, c'est de la triche pure et simple, les adversaires n'ont pas osé bouger, n'ont rien osé dire, parce que sinon, elles se seraient fait traiter de transgenre, elles auraient été pointées du doigt, elles auraient eu des shitstorms, comme on dit aujourd'hui, et donc personne n'a bougé, tout le monde fait semblant. C'est invraisemblable, c'est la fin du sport féminin, il faut être clair.
Ouais, bah voilà. Coup de gueule.
Vous voulez couper et vous allez combattre les filles. Bravo.
Allez.
On vous les coupe même pas. Hein. Vous dites le matin, je suis une femme. Ah, très bien.
Non, il y a eu une transformation.
On devrait leur interdire d'aller effectivement.
Bon, enfin, il y a un problème.
On avait parlé avec Candeloro.
Oui, absolument. Allez, on marque une pause. On se retrouve dans un instant. On va parler de l'Ukraine. On va parler d'Emmanuel Macron. Premier meeting du non-candidat le 5 mars. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi. Valérie Expert. Débat.
Les débats avec vous, avec Régis de Castelnau, Jacques Myard, Éric Tegner et Christian de Villeneuve. Bon, on a pris du temps avec le zapping. On n'a pas fini les coups de cœur et les coups de gueule. Jacques Myard, coup de gueule.
Oui, c'est un coup de gueule à propos de ce qui s'est passé en Afrique. Parce que, bien évidemment, depuis hier, c'est El Alali sur Poutine, avec la volonté de prendre des sanctions qui risquent de plus pénaliser les entreprises françaises que Poutine lui-même. Mais si on veut vraiment, je dirais, s'opposer à Poutine, il y a un endroit où on devrait quand même faire attention. On a annoncé, le président de la République, le retrait de Barkhane du Mali. Or, on laisse la place à qui? À Wagner, c'est-à-dire aux Russes. Donc il y a un moment, on prend les moyens de notre politique et on fait face à Wagner et on casse du Wagner. Et là, M. Poutine, il comprendra qu'il ne faut pas aller trop loin. Et c'est ça que je voudrais dénoncer, parce qu'on a présenté ça comme un repli stratégique, parce qu'on nous demande de partir, parce qu'il y a un factieux qui est à la tête de cet État. C'est complètement, je dirais, une reculade de première. Et il faut ajouter une chose, c'est que ça résulte de la politique de coopération en matière militaire que la France a adoptée de 15 années pour des raisons budgétaires. On a complètement supprimé la coopération militaire, parce qu'en Afrique, le seul service public qui existe, c'est l'armée. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Et on formait des officiers. Et là, le Xozo, qui est à Bamako, vous savez où il était formé? Chez les Russes. C'est étonnant. On a laissé la place. Et donc, il y en a qui prennent notre place. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, si on veut reconquérir notre position, on reprend notre place et on ne laisse pas Wagner gouverner l'Afrique.
Ouais. Oui, mais on ne reste pas forcément au Mali, mais on se développe, on se déploie dans les pays limitrophes.
Tout ça, c'est des blagues. On va payer très cher parce que ça va gangréner. Et parce qu'on vient nous dire, mais l'opinion publique africaine est contre nous. Tu parles de l'opinion publique. Tu la connais, l'opinion publique africaine? Elle est manipulable. Et en 24 heures, elle peut changer d'ennemi. Faut arrêter. Donc, on prend les moyens de notre politique. Et là, on a laissé faire. C'est une faute stratégique.
Allez. Oui, mais comment on fait alors?
On fait? Eh ben, on casse du Wagner.
Voilà. Oui, mais ça veut dire quoi, ça?
On a les moyens de casser du Wagner.
Mais bien sûr qu'on a les moyens, là. Parce que Wagner, c'est un certain nombre de zozos répartis dans plusieurs États. Quand on leur aura cassé quelques zozos, ils comprendront et ils foutront le camp.
Non, mais ça veut dire quoi? On envoie donc, on fait des commandos, on fait une opération aéroportée.
On prend les moyens pour la...
Mais non, tout ça, ça je veux bien, mais la guerre, c'est quelque chose de technique et de sérieux.
Eh bien, la preuve, on a des forces sur place. La preuve, c'est qu'on va mettre au moins 9 mois à rapatrier.
On n'a pas grand monde sur place,
énormément d'hommes, on s'oppose et on ne laisse pas faire les choses. C'est aussi simple que ça, on a des services spécialisés qui savent faire.
Alors, j'aime bien Stéphane qui nous dit ça va rafaler sévère si on veut virer les Russes. Afrique.
Oui, ça va rafaler. Savoir les moyens.
Je veux bien, on est très fort. Allez. Ça fait 10 ans qu'on est au Mali. 20 ans, les Américains qui ont la meilleure armée du monde, la plus chère, etc., qui se sont fait foutre dehors par des va-nu-pieds en sandales. Moi, je veux bien, mais bon.
Moi,
je sais pas faire. Si on laisse les choses continuer, on va avoir un truc en boomerang parce que ça va gangréner partout. Mais il y a un moment, il y a 53 de nos hommes qui sont tombés pour rien.
Pas pour rien, c'est la guerre. C'est aussi la guerre. Éric Tegner.
Ce qui est factuellement vrai, là où je rejoins Jacques Myard, pas sur les solutions, mais sur le constat, c'est que Poutine, évidemment, aujourd'hui, pour lui, Macron n'a aucune crédibilité en raison de ce retrait du Mali, alors que la Russie est plutôt puissante. Non, mais c'est ce qui explique l'échec de Macron la semaine dernière et ce qui fait que la France a quand même des difficultés, parce que sur la scène internationale, Macron, quand même, enquille les échecs. Et ça, ça a forcément une répercussion.
Je ne sais pas qui n'aurait pas d'échec face à Poutine.
Mais il faut les expliquer, les échecs.
Alors, sur Poutine, il faut regarder les choses calmement. Parce que ce qui se passe, c'est qu'effectivement, les accords de Minsk n'ont pas été appliqués par l'Ukraine. Il ne faudrait quand même pas l'oublier. Parce que s'ils avaient donné l'autonomie au Donbass, peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Mais ils se sont assis là-dessus. Et ni la France, ni l'Allemagne n'ont poussé Kiev à appliquer les accords de Minsk.
Bon, allez, Christian de Villeneuve, et on va en reparler de l'Ukraine et de la Russie tout à l'heure. Christian, vous, c'est sur la campagne. Votre coup de gueule qui a été préalable à l'annonce de ce meeting, je vous rappelle, on l'a appris il y a quelques instants, premier meeting d'Emmanuel Macron le 5 mars prochain.
Oui, non, il resterait un coup de gueule. C'est-à-dire un coup de gueule contre cette campagne fantôme, contre cette campagne introuvable. Je m'explique. En effet, on passe notre temps à commenter des sondages quotidiens.
La course de petits chevaux.
Qui transforme la campagne présidentielle en course de petits chevaux. Et on passe notre temps à commenter la course au parrainage, autre course de petits chevaux. Résultat, il n'y a aucune thématique qui s'impose durablement. Durablement. Un jour, on va parler du nucléaire, mais le débat disparaît immédiatement. Donc, c'est une campagne qui n'a pas commencé, qui est complètement volatile. En plus, et ça, je l'ai déjà dénoncé la semaine dernière, le grand favori reste muet. On nous annonce qu'il va parler parce qu'il peut pas faire autrement à partir du 5 mars. Et puis, en plus, on peut regretter une chose, c'est que cette campagne, elle va être occultée par le conflit russo-ukrainien.
C'est sûr que la campagne...
Je crois que finalement, la campagne va vraiment démarrer au lendemain des candidatures le 4 mars et qu'on va avoir une campagne extrêmement courte, c'est-à-dire de 7 semaines, qui peut nous rappeler celle qu'on a connue en 1974 après le décès de Georges Pompidou.
Alors, il faut savoir aussi que...
Attendez, Eric a commencé à parler, puis après je vous donne la parole.
Je vais être rapide. Quand il y a un président sortant, de toute façon, ce sont toujours historiquement des campagnes plus ennuyeuses, donc ça, faut le prendre en compte. Après, ce qui est, pour moi, ce que je note, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, tous les candidats parlent à leur camp. ils font une campagne, une vraie campagne de premier tour. Donc on voit Marine Le Pen qui parle à sa base, Zemmour qui parle à sa base, Mélenchon qui parle à sa base. En fait, chacun est vraiment en vase clos et il y a des difficultés effectivement d'avoir des thématiques qui vont rassembler les Français.
Pourtant, il y en a, c'est compliqué. Le pouvoir d'achat, la santé, il y a pas de thème de débat à proprement parler. Même sur l'entreprise, quand ils sont allés au MEDEF, on n'a pas vu vraiment de choses ressortir.
En 2017, il n'y a pas eu de débat d'idées, c'était les affaires Fillon. À chaque fois, on dit il faut parler des grands sujets, etc. Dans les faits, c'est toujours de la politique aérie, du sang et des larmes. Ouais.
Alors, Régis,
un accord, un désaccord. Le désaccord, c'est s'il y a eu un thème qui a été imposé par Éric Zemmour au début de la campagne l'automne dernier, ça c'est indiscutable. Il y a eu l'immigration et l'insécurité avec l'identité. Ça a été très fort. Ça a été imposé par Zemmour. Il y est parvenu. C'est devenu le récit qu'a admis. Ça c'est. Donc je pense qu'il y a eu des idées et c'est vrai qu'elles ont pris tellement d'importance qu'elles ont probablement occulté le reste. L'accord, c'est que c'est une campagne qui est une campagne qui ne porte pas sur les programmes ou très peu. Pourquoi ? Parce que quel est l'enjeu de cette élection ? Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que tous les candidats, enfin ceux du peloton de tête, les trois Pécresse, Zemmour, Marine Le Pen et peut-être Mélenchon qui gratte à la porte derrière, se présentent tous. Je suis le seul qui peut battre Macron. Oui. C'est moi qui dois pouvoir battre Macron. Or, l'enjeu de cette élection, c'est moins les programmes que Macron stop ou encore. C'est-à-dire que ça va être. Alors ça je sais pas du tout. Et je pense que c'est pas du tout fait de le sortir de l'Élysée. Mais je pense que c'est vraiment le débat qui est le mieux placé pour battre Macron. Regardez, on parle peu des programmes derrière, de législatives, etc. Ouais. Ce qui est normal d'ailleurs, ce que je comprends. Non, l'enjeu, et c'est pour ça, à mon avis, mais je peux me tromper, c'est pour ça que Macron démarre le plus tard possible, parce que il sait bien que ça va être, à ce moment-là, le feu croisé explosif va arriver. C'est pas pour autant que ça le mettra en difficulté, je sais pas. Mais c'est une élection qui est véritablement complètement polarisée. Moi, ça me renvoie un petit peu à celle de 2012, où beaucoup disaient tout sauf Sarkozy, quoi. Il y avait un rejet, et c'est plus Sarkozy qui a perdu que Hollande qui a gagné.
On marque une pause, Jacques Mira, je vous donne la parole sur le sujet de cette non-campagne. Merci. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Les débats avec vous jusqu'à midi. Alors Jacques Myard, cette non-campagne qu'évoquait Christian de Villeneuve, ça vous semble normal ? Est-ce que c'est le cas à chaque fois ou est-ce que c'est plus marqué cette fois-ci ? Et l'absence de candidature du président de la République en est-elle la cause ? Vous avez 2 heures.
Ça y concourt, l'absence du président de la République. Je voudrais saluer mon ami Christian de Villeneuve. Je suis heureux de le retrouver. J'ai cru qu'il était mort. On n'entendait plus parler de lui.
C'est pas sympa.
Ce point précis, c'est une petite anecdote. Oui. Ce qui est certain, ce qui se passe, qu'on le veuille ou non, dans cette campagne présidentielle, c'est que les candidats doivent apparaître tels qu'ils sont et doivent donner au peuple un aspect de crédibilité. Et c'est ça qui est le point majeur.
Ce qui n'est pas le cas de votre candidate.
Mais c'est pour tous.
Mais plus particulièrement de votre candidate.
Le président de la République, quand il va descendre dans l'arène avec toutes les conneries qu'il a dites et les insultes qu'il a données aux Français, je peux vous dire que sa crédibilité est en cause. Et les autres également. Donc c'est une question de crédibilité des candidats. Ça vaut, je l'ai dit à Valérie Pécresse, tu dois exister par toi-même. Ça c'est évident. Mais c'est vrai que c'est ça qui manque aujourd'hui, c'est que les Français n'ont pas encore véritablement au fond d'eux-mêmes en disant « celui-là, c'est le plus crédible de tous et on verra ». Donc c'est très ouvert, contrairement à ce qu'on peut penser, les jeux ne sont pas faits.
C'est pas fait. Il y a une dynamique dans notre sondage quotidien pour de l'IFOP. Valérie Pécresse hier perdait, je crois que c'était un demi-point, 0,5, ou un point, 0,5. Et on voit que Marine Le Pen a une dynamique, sur une dynamique de montée, de hausse.
Ce sont des sondages.
Mais il a raison, vous avez raison, Jacques Myard, je crois que rien n'est fait. On voit entre 15-16, et est-ce qu'Emmanuel Macron baissera quand il annoncera son entrée en campagne ?
Je suis convaincu qu'il va baisser, parce que pour l'instant, il est au sommet de l'Olympe, n'est-ce pas?
Oui,
et
hors sol,
quand
oui.
il va descendre, il y a un chemin qui est très rapide vers la roche tarpéienne.
Absolument.
Oui, mais le problème, c'est que s'il descend, ses voies vont où? Est-ce qu'elles vont, si elles vont d'un côté vers Mélenchon, il va monter? Ou est-ce qu'elles iront chez Pécresse? Moi, j'ai du mal croire aujourd'hui que Valérie Pécresse peut récupérer un électorat de Macron, même un électorat qui peut douter. Il peut perdre un ou deux points, mais je ne suis pas sûr que ça suffise aujourd'hui à Valérie Pécresse quand même à monter. Après, pour Marine Le Pen, la vraie question, effectivement, c'est intéressant hein, parce qu'elle monte dans les sondages. Là, il y a un autre sondage qui la place à 18%. La clé, c'est pour ça qu'il y aura des inconnus jusqu'au premier tour, c'est la mobilisation. Ouais. Est-ce que les gens vont aller voter?
Exactement. Voilà.
Non, ouais. Mais il y aura... L'offre est là. Et le premier tour, contrairement à tout ce qu'on nous radote, il y aura une participation. C'est le deuxième tour qui risque effectivement d'être moins mobilisateur. Mmh. Mais au premier tour, compte tenu de l'offre des candidats, il y aura une grande participation, comme ça a toujours existé.
Mais avec des gens qui se décident deux jours avant. Quoi.
Parlons donc de cette annonce qui a été faite dans la matinée. Le président de la République donc le président de la République. Je ne sais pas qui a annoncé, mais en tout cas, on a appris qu'il se tiendrait un meeting le 5 mars prochain. Il n'est pas candidat. Donc, c'est quand même baroque comme situation. C'est-à-dire qu'il n'est pas candidat, mais il va tenir un meeting.
Oui, mais c'est pas très nouveau, parce que je vois, par exemple, dans le Calvados, il y a des comités de soutien, pour en faveur d'Emmanuel Macron. Donc, finalement, c'est le non-candidat qui est candidat tout en n'étant pas candidat.
Mais est-ce que ça ne devient pas un peu ridicule?
Moi, je pense que ça peut se retourner contre lui.
Le prendre en compte.
Je pense que ça peut se retourner contre lui parce que on dit effectivement que les précédents présidents sortants se déclaraient au dernier moment, mais je pense qu'on a changé d'époque et les Français sont demandeurs de débat et de transparence. Et je pense que cette campagne présidentielle démarrera vraiment lorsqu'il y aura des débats contradictoires et que je pense que les Français sont demandeurs d'un grand débat, même s'il y a 10 personnes, et que ça. L'ensemble de la population peut se réveiller. Pour l'instant, d'ailleurs, les audiences des émissions avec un candidat sont pour l'instant très 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 décevantes.
Je trouve sévère regarde Macron devait se déclarer candidat normalement c'était aujourd'hui hein, ils avaient prévu le mercredi.
Oui,
sauf qu'il y a la crise ukrainienne.
Et alors
les Français ont besoin de débat. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui à un moment donné on attende aussi que le président de la République il fasse des débats en pleine crise ukrainienne. Donc, il a choisi de se déclarer le plus tard possible. Six semaines, ça va largement suffire pour faire des débats. La question, c'est est-ce qu'Emmanuel Macron va se lancer dans les débats? Est-ce qu'il va accepter d'aller dans l'arène? Je pense que ça serait souhaitable, hein, parce qu'il est venu en 2017 aussi sur la promesse de renouveler la vie politique, etc. Je pense effectivement qu'il le fera. Il laisse monter la petite musique comme quoi il le fera pas pour débarquer et dire « Mais d'où, moi, je refuserais de faire un débat ?» Voilà, c'est le jeu perpétuel chez Emmanuel Macron. Mais Emmanuel Macron, il a toujours théorisé quand même la distance, etc. Et à un moment donné, on attend du président de la République quand même qu'il aille au bout de son mandat. Qu'il aille au bout de son mandat. Donc, je trouve que là-dessus, il y a pas mal d'hypocrisie. Alors, chacun joue un peu son petit jeu, mais de toute façon, il y a la recherche des parrainages, les gens ont la tête à ça. Donc, moi, Emmanuel Macron, il se déclare quand il veut.
Macron joue l'esquive.
Pourquoi
ça va se retourner contre lui.
Je suis d'accord.
Parce qu'il est trop facile de dire « c'est moi le président, je dois gouverner, je vais voir Poutine, dont acte », ça ne changerait rien.
Quand même, il manipule pas ça.
Mais de toute façon...
Il n'a pas inventé la crise, il n'a pas inventé la crise ukrainienne.
Non, mais le comportement de dire « je suis au-dessus, je ne peux pas être candidat »,
il y a un moment, la réalité vous rattrape et il va être en bas.
Il n'a pas inventé la crise ukrainienne, il a inventé son récit de la crise ukrainienne, il s'est présenté comme le go-between, il s'est fait photographier de façon ridicule, parasé pour dire « oh là là, j'ai le sort du monde sur mes fragiles épaules », etc. Il a instrumentalisé la séquence. Bon, pour autant, il est président en exercice. Il a essayé de faire son boulot, mais enfin, bon, on nous a
Sarkozy
quand même
a fait la même chose à l'époque.
Je
trouve que Macron, sa vraie complication aujourd'hui, c'est qu'il s'attendait qu'à ce moment-là, il y ait un ennemi identifié à droite. Il s'attendait à ce que, pendant quelques semaines, effectivement, Marine Le Pen, Zemmour, Pécresse se battent. Et d'un coup, il y en a un. Aujourd'hui, on ne sait pas qui va choisir comme adversaire. D'ailleurs, ils se disent, Mélenchon est en train de remonter, ça pourrait être Mélenchon. Et c'est ça qui va être compliqué pour lui. Moi, je pense qu'il va vouloir taper sur tout le monde parce qu'il a intérêt à ce que ça soit divisé pour qu'il soit vraiment en tête au premier tour.
Possible aussi. Mais
affiche, la fameuse affiche où on le voyait, les Russes reculent, la paix, c'est Macron,
mais ça, c'est
etc.
la communication d'En Marche qui est ridicule. Il est un parti ridicule, en fait.
Il n'y a pas un membre de son cabinet, personne qui la contrôle, cette communication.
Je pense qu'il
n'est
pas là-dedans.
Là.
Il a jamais été dans son parti, il les laisse
faire.
Non,
il n'est pas du tout narcissique.
C'est un truc de réseaux sociaux, les affiches.
Il n'est jamais dans la gestion de son image, il n'est jamais dans la représentation.
Son image, mais pas son parti.
Etc. Non, attendez. Cette affiche en grand, etc., qui avait toutes les caractéristiques d'une affiche de campagne, hein, si vous me dites que c'est un gars dans un coin qui l'a faite, hein, et que à l'Élysée on s'en est pas occupé, bah, je suis un peu inquiet pour le sort de mon pays.
Est-ce qu'il va compter sa déclaration de candidature en revanche? Est-ce qu'il va le faire un peu à Chirac, au détour
Il a dit qu'il voulait que ça reste dans l'histoire. Donc
il va la faire jupitérienne.
Il va la faire jupitérienne, ouais. Je ne sais pas.
Après, il y a le choix de Marseille qui est intéressant aussi, de faire un grand meeting à Marseille.
C'est un soutien de l'OM.
Peut-être que ça va être une façon aussi d'inscrire une campagne sur les questions d'identité.
Il va se
aussi,
déclarer forcément avant
forcément.
Ce meeting.
Il va
forcément.
Le faire normalement au détour d'un
déplacement, peut-être au salon de l'agriculture.
Auprès de Français, dans la ruralité. Je pense pas, parce qu'ils avaient dit qu'ils ne voulaient pas justement qu'ils se déclarent ce week-end pour ne pas prendre en otage le salon de l'agriculture. Ça paraîtrait étonnant de ce point de vue-là.
Ouais. Olivier, un auditeur nous dit l'adversaire le plus redoutable au second tour serait Mélenchon, car ce dernier aurait le soutien massif des médias, majoritairement de gauche, pas tous. Et Stéphane nous dit la crise en Ukraine sera le prétexte à ne pas combattre jusqu'à une option d'annulation des élections si la crise prend de l'ampleur. Est-ce que les élections peuvent être annulées? L'avocat, c'est...
Non. C'est pas l'avocat qui se prononce, parce que il faudrait qu'il y ait un article 16, ça me paraît très difficile. Non, et là, on passe à l'Ukraine. Ouais. Je pense que cette crise ukrainienne, on a assisté à un tournant. Je pense que ceux qui vont tirer les marrons du feu sont d'un côté les Russes, de l'autre côté les Américains. L'Europe, le dindon de la farce, comme d'habitude, hein, et je pense que ça va pourrir. Vous savez, moi, j'ai un souvenir de jeunesse. J'avais 24 ans, hein. On a pensé qu'il allait y avoir une guerre en Méditerranée parce que il y avait un membre de l'OTAN qui avait envahi un pays indépendant qui s'appelait Chypre, hein. Ça fait 48 ans que ça dure. Le pays est coupé en deux. Ça n'a jamais été réglé. Je parle même pas du Kosovo, etc. Oui. Donc, je pense que ce qui s'est produit là est effectivement une crise qui s'est manifestée. Hein, mais je pense que les Russes, alors je continue, je pense que les Russes, il faut pas l'oublier, ce que disait Védrine, c'est nous qui avons fabriqué le Poutine d'aujourd'hui. Je crois que c'est vrai, parce que faut quand même se rappeler que la Russie, quand l'Union soviétique s'est effondrée, s'est retrouvée toute nue, hein, tout ce qui l'entourait, les glaciers, etc. Hein, et donc avec un fort sentiment de vulnérabilité qu'elle traîne depuis longtemps et surtout depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc aujourd'hui, si on regarde la géographie, c'est très intéressant la géographie, on s'aperçoit que la Géorgie, c'est, il y a les deux tampons, hein, Abkhazie, Ossétie, on constate que il y a le Kazakhstan, tout va bien, on constate qu'après il y a la Transnistrie, qui sont des faux états, hein, que personne ne reconnaît, mais qui sont des tampons pour les Russes, hein, et maintenant il y a l'Ukraine, parce que ça va rester pourri bien longtemps, avant que l'OTAN puisse faire adhérer l'Ukraine, parce que ça voudrait dire déclaration de guerre, hein, et personne ne va vouloir jouer ce jeu-là, et sans oublier, et ça, les Occidentaux, toutes les conneries à faire, ils les font. Avoir soutenu une révolution de couleur que la démocratie en Biélorussie pour rejeter la Biélorussie dans les bras de Poutine, ça, chapeau. Hein. Donc, je veux dire, bon, aujourd'hui, je pense que Poutine, il a, dans sa partie, il ramasse sa mise, hein, et les Américains sont ravis parce que les Européens vont être les premières victimes des mesures. Hein, bon, on a l'augmentation du gaz, la Russie continue à s'adapter, elle a changé complètement son agriculture depuis 10 ans à cause de ces sanctions, hein. Les Américains n'ont pas à s'en plaindre, et je pense que les écologistes chez nous, monsieur Jadot en particulier, qui est ultra-atlantiste, ultra-néocon, doit être ravi puisqu'on va payer le gaz de schiste américain plus cher. Il doit être enchanté et puisqu'on a aussi abandonné le nucléaire. Enfin,
bravo, alors, bravo.
Vous êtes d'accord?
Je voudrais ajouter quelque chose.
Allez-y, Jacques Mia.
Le jour où les Français, les Européens auront compris que la première organisation politique et militaire en Europe, c'est les Américains à travers l'OTAN, ce jour-là, ils auront quand même reçu et revu la réalité. Parce que dans cette affaire, effectivement, ceux qui vont gagner, ceux qui sont en train de nous conduire à un affrontement, ce sont les États-Unis. Et je le dis parce que nous sommes peut-être des alliés, mais dans un certain nombre de cas, et celui-ci bien en sûr. Particulier, il joue un rôle dangereux. Ouais. Jamais l'Ukraine ne peut rentrer dans l'OTAN. Nous l'avons dit, nous l'avons écrit en 97 dans un accord avec les Russes. Et donc, il est manifeste qu'aujourd'hui, si on laisse l'OTAN rentrer en Ukraine, ce sera un casus belli, et c'est de la géostratégie. C'est pas de savoir si un État peut décider souverainement. Il doit décider souverainement en fonction de la réalité géostratégique. La France et l'Allemagne se sont opposées à l'entrée, notamment au sommet de Strasbourg, à l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Il faut rester sur cette ligne et surtout pas suivre, je dirais, l'ultra-boutisme de Monsieur Biden qui n'arrive pas à maîtriser les faucons américains.
D'ailleurs, je note, ouais, c'est assez amusant, on a expliqué pendant des années que le problème, c'était Trump.
Eric Tegner.
Faut noter que l'annexion de la Crimée, ça date d'Obama, et que le problème avec l'Ukraine, c'est sous Biden. Et que
non, mais c'est pas une question
Trump,
de démocrate ou de
républicain. Il n'y a pas eu ça. Non, mais c'est intéressant.
Ouais, vous avez vu ce qu'a dit Trump, hein, il a dit « c'est du génie, ce mec est malin, c'est incroyable ». Donc du coup, c'est...
Ça en fait... parlant de qui?
En parlant de Poutine. En parlant de Poutine,
il est pas de Biden.
Il a dit c'est du génie, donc c'est vrai que ça fait évidemment.
Vous connaissez tous la phrase de Virgile, jamais de confiance dans l'alliance avec un puissant. Eh bien, nous devrions mettre ça en œuvre, et c'est une phrase qui date de 2000 ans.
Allez, on marque une pause et on continue à parler de l'Ukraine, de la Russie, de ces sanctions qui, comme vous l'avez dit et comme on l'a déjà évoqué, risquent de pénaliser les Européens, peut-être plus encore que la Russie.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Les débats avec vous, on parle des sanctions contre la Russie, sanctions annoncées hier par Joe Biden en particulier, et puis les sanctions des Européens qui doivent être formellement adoptées. Elles feront très mal à la Russie, a dit le chef de la diplomatie de l'Union Européenne, Joseph Borrell. On a parlé de gel d'avoirs, l'interdiction de visa qui vise des députés russes. Alors là, ce sont des mesures de représailles qui laissent dubitatif un certain nombre de personnes, parce que, même de politiques, on a une vraie dépendance, vous évoquiez l'agriculture, on a une vraie dépendance vis-à-vis de la Russie. Hein.
Tout à fait. D'abord, à partir du moment où on a dit qu'il n'y aurait aucune intervention militaire, donc on est condamné à ces sanctions économiques. Mais quels sont ces effets des sanctions économiques? Je pense d'abord il peut y avoir un effet boomerang, effectivement, pour les Français, pour les Européens. Et d'autre part, moi je pense que ces sanctions pousse la Russie dans les bras de la Chine.
Ouais.
Bon, parce que là, on parle du gazoduc Nord Stream 2 qui va pas être mis en marche. Le numéro 1, le gazoduc numéro 1 fonctionne toujours. Et si la Russie décidait de le couper, il vendrait sans doute ce gaz ailleurs et dans d'autres pays que dans des pays européens. Donc on est très impuissant. Et on a l'impression qu'on est face à une certaine fatalité.
Oui. Eric Tegner, sur...
Je pense que les sanctions n'ont pas fonctionné après l'annexion de la Crimée. Je ne vois pas effectivement pourquoi elles fonctionneraient aujourd'hui. Et qu'effectivement, les dindons de la farce, ça va être nous. Il va y avoir des impacts quand même avec cette crise ukrainienne. On parlait
sur
tout
le prix
à l'heure,
de l'énergie.
Enfin, heureusement qu'on a
le
nucléaire.
Et directement de l'essence, hein, parce qu'il y a un lien. Le baril de pétrole est vraiment lié aussi aux questions géopolitiques. Donc ça va être compliqué de notre côté. Je pense qu'il faut qu'ils rétablissent uniquement la solution diplomatique avec la garantie que l'Ukraine ne fonctionnera pas, ne rentrera pas dans l'OTAN. Moi, j'ai entendu Biden, c'est intéressant.
Est-ce qu'on peut parler à Poutine
de l'Ukraine aujourd'hui comme si l'Ukraine était dans l'OTAN? Je trouve que c'est pas propre à rassurer. Et l'unique objectif, moi, que je perçois côté des États-Unis, c'est de légitimer des sanctions qui vont affaiblir l'ennemi russe, le péril russe, et derrière de fragiliser également l'Union européenne.
Ouais, Christian voulait juste ajouter quelque chose.
La vraie question, est-ce qu'on peut parler à Poutine? Est-ce qu'on peut croire ce qu'il dit. François Hollande disait hier sur une radio en disant la seule chose qui compte avec Poutine, c'est le rapport de force. Alors quel rapport de force on peut fixer à Poutine? Je n'en sais rien.
Ouais.
C'est pour ça que ce que Jacques je disais Mirand. Tout à l'heure, premièrement, il faut voir une chose, c'est que les sanctions, qui poussent aux sanctions, c'est étrange, c'est surtout les États-Unis
oui,
qui ont très peu de relations avec la Russie.
Absolument.
Et quand ils bloquent le Gulf Stream, quand ils bloquent, pardon, le gazoduc qui doit amener le gaz en Allemagne, ils vont présenter leur gaz de schiste. Hein, et il faut quand même regarder les choses telles qu'elles sont. Bien sûr qu'il faut parler ferme avec Poutine, mais il faut l'attaquer là où il ne s'y attend pas. C'est la raison pour laquelle, si on le bloque, notamment en Afrique, en disant « maintenant, ça suffit », il va vite comprendre. Parce qu'il va se dire « merde, je suis fort peut-être du côté de Donbass, mais je ne suis pas fort ailleurs ». Donc c'est là où il faut jouer beaucoup mieux qu'on joue. J'ajoute une chose, c'est qu'effectivement, on rentre dans des sanctions multilatérales. Et c'est la pire des choses, parce qu'on n'en sort pas. Et c'est ça qui est dramatique. Pourquoi on n'en sort pas ? Parce que les Européens sont complètement divisés. On peut comprendre les Polonais qui n'aiment pas les Russes parce qu'ils ont payé, les Pays-Baltes également, mais ce n'est pas notre position. Donc plus on joue le multilatéral, plus on s'enferme dans quelque chose qui va être insupportable à la fin. Donc il faut, et c'est là où Macron, qui n'a rien compris, il a le cul entre deux chaises en matière européenne. Il a voulu jouer les matadors en tant que président du Conseil, mais en réalité... il est à la tête d'une coalition. Il devrait se souvenir du fameux mot de Foch. Depuis que j'ai commandé une coalition, j'admire beaucoup moins Napoléon. C'est ça la réalité.
Mais en même temps, il a eu des discussions très longues. On ne sait pas exactement ce qui s'est dit. Mais
ça n'a aucune espèce d'importance.
Mais l'autre, il en est. Non. Oui, mais
écoutez, ça fait 10 jours qu'à la Douma, il y a eu une motion qui a été votée par tous les propositions des communistes pour dire qu'il faut reconnaître les deux républiques. Il ne veut pas aller plus loin. Il ne veut pas aller plus loin. Il s'en fout. Jamais. Il veut aller à Kiev parce que là, effectivement, ça changerait de nature. Il n'est pas complètement barjot.
Non, puis surtout, qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce qu'il va faire du reste de l'Ukraine ? Qu'est-ce qu'il va en faire ? C'est un pays corrompu, c'est un pays en crise économique majeure, etc. Qu'est-ce qu'il va aller prendre des risques en plus ? Sûrement pas. Non. Ce que je disais tout à l'heure, il y a une nouvelle configuration. Je crois qu'on est on est sorti avec cet événement qui est un événement important. On est sorti de l'ère des guerres de 20 ans. C'est-à-dire qu'après la chute de l'Union soviétique, il y a une configuration qui s'est mise en place. Les Américains ont considéré que leur hégémonie était de droit divin, quasiment, hein, et ils ont multiplié les conneries. Quand on y réfléchit, on vient donner des leçons à Poutine pour la reconnaissance des deux trucs, mais enfin, on a quand même une agression d'un pays indépendant en 2003, qui est un crime contre la paix, selon les statuts de Nuremberg, ordonnés par Bush et par Blair, qui n'ont jamais été jugés, qui ne seront jamais jugés, ce sont des criminels au sens du droit. Donc, ça a mis à feu et à sang le Moyen-Orient. Donc, je pense qu'on est sorti cette fois-ci de cette phase. Alors, je ne sais pas ce que sera la suivante. Hein. Je crois que effectivement, ce qui s'est passé avec moi, j'ai essayé de suivre ça d'assez près. Ce qui s'est passé avec la crise ukrainienne, c'est que l'automne dernier, les Russes ont dit on ne peut pas discuter, on ne peut pas compter sur les Américains, ils n'ont pas de parole. Donc maintenant, on va nous aussi tracer des lignes rouges, ce qu'ils n'avaient jamais fait. Et ils ont demandé des garanties écrites. Vous pensez bien que les Américains ont pris ça de haut. Les Européens ont suivi jusqu'au moment et en disant mais pas du tout, on s'est jamais engagé. Sauf que la presse allemande a publié hier les preuves écrites de ces engagements. Donc, je veux dire, aujourd'hui, les Chinois et les Russes ne joueront plus la partie comme ça a été le cas dans les.
Et il faut savoir que les Américains veulent se faire pardonner leur déculottade en Afghanistan. Et c'est aussi leur crédibilité en ce qui concerne Taïwan. Donc, il ne faut pas jouer au con dans cette affaire et servir de supplétif à une politique étrangère américaine qui ne nous est pas favorable.
Oui, mais ça, je pense que, enfin, a priori, on peut imaginer que l'Europe a les mêmes raisonnements que vous, Jacques Mérin.
L'Europe n'existe pas, Valérie. Ouais. Ça n'existe pas. C'est complètement divisé. Vous avez ça sur tous les problèmes. Vous avez des gens comme les Pays-Baltes, que je connais bien, qui effectivement sont anti-soviétiques, qui ont une minorité puissante chez eux, à laquelle ils dénient les droits les plus élémentaires de voter. Et puis ensuite, ils jouent les matamores. Il y a un moment, c'est de la politique du pire.
Et il faut penser à l'après aussi.
Eric Tegner,
je pense qu'il ne faut pas tomber dans le piège de la petite musique qui monte là. Des médias commencent à dire que Poutine, finalement, est cinglé. parce qu'effectivement, son intervention de 40 minutes...
Un peu ce qu'a dit le président de la République, hein, quand il dit c'est un discours paranoïaque, ça laisse entendre...
C'est certain que vu du côté français, d'une société très progressiste actuelle, etc., où on regarde assez peu notre histoire, ça paraît surprenant de voir Vladimir Poutine qui va parler de l'histoire millénaire de la Russie, etc. Mais il a toujours été comme ça. Et l'âme russe, elle est comme ça. Donc si on réagit en disant oui, mais c'est un dictateur paranoïaque qui est complètement cinglé, je pense pas que ce sera une façon de bien aborder les prochaines négociations. Parce que Vladimir Poutine, il va rester aujourd'hui président de la Russie. À moins que Biden veuille faire un coup d'État, ce qui n'arrivera pas. Donc ils sont bien obligés de discuter avec lui.
Ouais.
Et je trouve qu'ils ne mettent pas, avec ce type d'argumentation, ils ne préparent pas justement la possibilité demain d'avoir une diplomatie apaisée.
Régis avait pris la parole. Poutine
est-il paranoïaque? Moi je réponds oui, c'est bizarre que je réponde ça. Et qu'est-ce que j'entends par là? Je vais être sérieux. Moi je connais bien l'Union soviétique, je l'ai bien connu. Non, je connais pas Poutine, je le regrette, mais j'ai connu Gorbatchev, mais je ne connais pas Poutine. Toujours est-il que les Russes ont un syndrome
d'encerclement,
de nations encerclées. Ils sont, mais quand vous voyez pendant le centenaire de la Première Guerre mondiale, le trauma qui existe encore chez nous, et chez eux, la grande guerre patriotique, ils ont payé d'un prix abominable, et très fort. On ne leur refera jamais Barbarossa. Il faut être clair, Et si on comprend pas ça, je veux dire, on a du mal à parler avec eux. Alors bien sûr, il y a la Grande Russie, il y a le patriotisme. C'est quand même un pays extraordinaire, la patrie de la danse classique, la patrie de la littérature. Ouais. C'est des grands malades sur beaucoup de choses. Mais c'est un peuple et c'est une nation extraordinaire quand même.
Il faut prendre en compte également la proto-histoire avec l'Ukraine. Parce que la Deuxième Guerre mondiale a été, faut jamais oublier que les Ukrainiens, beaucoup d'Ukrainiens, pas tous heureusement, ont accueilli à bras ouverts les nazis. Il y a eu une milice qui a été faite par les Ukrainiens pour livrer les Juifs aux Allemands. Et que il faut relire Vassili Grossman qui dit « Lorsque je suis entré, que l'armée rouge a délivré l'Ukraine des nazis, il a compris que c'était ses propres compatriotes qui avait livré les Juifs à la Shoah.
Mais les milices ukrainiennes qui sont contre les milices russes, il y a beaucoup de nazis dedans.
Bien sûr, c'est nationalistes
et vraiment de néo-nazis qui sont complètement affichés. C'est intéressant de voir que pour le coup, ça, on n'en parle pas beaucoup.
Je vois la crise en Ukraine débrancher l'accès à SWIFT, l'arme atomique contre la Russie. Alors SWIFT, c'est ce qui permet les transferts, les relations financières. Donc est-ce qu'il risque d'y avoir une escalade?
Bien, ils utiliseront leur propre monnaie et leurs propres transactions. Ils ont déjà commencé. Tout ça, c'est, je dirais, c'est du sabre de bois.
Voilà. Bon, merci à tous les quatre. Dans un instant, André Bercoff est à Toulouse. Vous savez que tous les mercredis, il est en délocalisation. Nous allons à la rencontre des Français à Sud Radio. Parlons vrai avec vous. Et dans un instant, André Bercoff. Très bonne journée.